Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire un peu plus sur Dreamcatcher?
Donc, je suis Chris, le chanteur de Dreamcatcher, qui est également le fondateur de Dreamcatcher. Il y a des gens qui disent, mais je vais finir par accepter l'appellation que je suis Monsieur Dreamcatcher.
Ouais, je suis Geoff, un des gratteurs du groupe.
D'accord. Alors, le nom, l'avantage, c'est que c'est ceux qui savent pas ce que c'est, bah, c'est illustré sur la pochette.
Voilà.
Ça vient d'où cette appétence pour la culture amérindienne?
C'est quelque chose que j'ai toujours eu, c'est un vrai intérêt pour moi. Et quand il y a maintenant 16 ans ou presque 17 ans, j'ai créé ce groupe-là. Ça s'est imposé de lui-même j'aime bien cet objet, j'aime bien le symbole, j'aime bien la légende du Dreamcatcher qui laisse passer les bons rêves et retire les cauchemars qui ensuite sont brûlés avec les premiers rayons de soleil, et je trouve qu'en plus c'est un objet qui est bienveillant. Voilà. Ensuite, pour tout dire, ce Dreamcatcher est mon Dreamcatcher, c'est-à-dire qu'il est même trône au-dessus de mon lit.
D'accord.
Et c'est un vrai Dreamcatcher qui a été fait dans le Dakota du Nord par des Amérindiens.
D'accord. C'est important de le citer parce qu'on trouve plein de production un peu...
Ah bah moi quand je vois un Dreamcatcher rose,
ouais. c'est sûr que ça...
Bon après faut que tout le monde mange, hein, mais...
Ouais mais bon, si tu pouvais éviter de passer à la sauce Disney, c'est quand même bien mieux.
C'est ça.
Comment vous décrivez votre musique? Alors en essayant de mettre dans des cases, mais plus peut-être par les influences communes à l'ensemble du monde du groupe. Est-ce qu'il y a des groupes qui font l'humanité et qui, d'une façon ou d'une autre, montrent le chemin pour le Dreamcatcher?
Ce sera pas une grande surprise si on commence à évoquer des noms comme Iron Maiden. Forcément, ça va influer. Des notions comme Metallica, des choses comme ça.
Même tout ce qui est trash, tout ce trash de la même des Exodus, des Annihilator, des choses comme ça. Et
Slayer, moins dans l'interprétation, mais forcément dans les playlists qu'on a tous.
Mais il y a
un groupe.
C'est marrant parce que c'est un mix de plusieurs choses, mais c'est vrai que quand on parle de heavy trash, on s'y retrouve à peu près, sachant que la particularité, même si aujourd'hui c'est un peu moins vrai parce qu'on commence à y revenir, la particularité c'est qu'il y a un chant clair.
Oui.
Voilà. L'influence, c'est tout ce que Levi a fait de bon depuis sa création, et après les influences, elles sont
très diverses. Parce que sur cet album là on a composé vraiment de concert, et donc tous les membres du groupe sur ce line up là en tout cas sont des influences très diverses. Moi je suis beaucoup plus maintenant sur une influence plus death voire black. On a un bas.
Ça touche les pistes dans la musique.
C'est d'ailleurs, Geoff joue également dans un autre groupe puisqu'il joue dans un. Il a intégré Asia, qui est un groupe de Black Death.
D'accord.
Voilà. On a un batteur qui est un gros fan de Meshuggah, par exemple, ou d'Amphitheater. On a le gratteux qui est un énorme fan de Pantera, par exemple. Une autre bassiste qui joue dans Bang Fu, donc qui fait plutôt du doom. Donc du coup, ça a été beaucoup d'influences différentes.
Il y a quand même cette base originelle quasiment pour tout le monde du heavy et du
trash en manière générale.
D'accord. Tu mentionnais le chant, donc je vais tout de suite revenir dessus. Tu disais chant clair. Est-ce que c'était dès l'origine une évidence chant clair où tu t'es, t'as peut-être essayé de faire des essais sur un chant un peu plus agressif, vous voyez. Et est-ce que l'anglais s'est imposé de façon
oui, récente? Oui, de la même manière que je peux pas, j'imagine pas que le camembert puisse être américain. quand j'ai commencé à faire de la musique il y a très longtemps, les groupes avec lesquels j'ai découvert cette musique étaient des groupes qui chantaient en anglais et ça me paraissait une évidence. Et en plus, alors c'est peut-être parce que je suis feignant, mais le français est très compliqué à faire rimer.
Jamais aucun essai autour du groupe, t'as jamais essayé de rédiger une chanson en français?
Non, et aujourd'hui même je trouverais ça quand même complètement antinaturel. Moi, Dreamcatcher doit sonner en anglais. C'est même peut-être aussi grâce à Dreamcatcher que mon niveau d'anglais a progressé, parce que je me suis mis vraiment à bosser et à essayer d'écrire des textes qui tiennent la route. Donc, ok, on part avec des handicaps. On a un groupe de heavy trash français. Et en plus, on n'a même pas le bon goût de chanter en français. Mais non, parce qu'il y a aussi une scène pour le métal, oui, français. Sûr, oui. Mais c'est quelque chose, tout simplement, au-delà de la blague qui est, oui, c'est difficile d'écrire en français, c'est quelque chose que je ne sens pas. Pour moi, ça doit sonner en anglais.
Parfait, je comprends. Je pense que moi, j'ai tendance à partager cet avis-là. Là, par exemple, sur du pagan, ça me dérange pas que ça soit dans une langue un peu plus exotique. Par contre, sur du heavy thrash, c'est vrai que ça paraît assez naturel. Ouais. Je voulais savoir si ça a été. Si on revient un peu en arrière et sur la période Emerging from the Shadows, si on essaye de synthétiser toute cette période-là, quel souvenir vous conservez de cette période?
C'est une période, ça a été vécu par moi et par l'ensemble du groupe, les gens que j'ai emmenés sur cette aventure, comme un aboutissement. C'est un vrai kiff, quoi, pour la première fois.
Passer de la démo à un vrai.
Ouais, pour la première fois de ta vie, tu peux faire un album. Bon, tu mets les moyens, mais finalement, au final, ton album, il est dans les bacs. Et c'est un vrai aboutissement. Après, forcément, le temps passe, tu vois les défauts. T'es toujours fier de tes compos, t'es toujours. Mais quel souvenir on a de cette période-là? On a des souvenirs assez. On est assez content parce que on défend l'album sur scène, parce qu'on commence à avoir des chroniques, mais on sent que ça divise, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que. Le son, c'est un premier album, donc il n'y a pas l'expérience.
Comme toute première production, c'est
que le défaut que le chant, ça surprend, et donc
mais ça veut dire que vous reprenez certains titres en direct, en oui, live, oui, que vous oui. les avez modifiés, vous avez pas modernisé, mais vous avez amené à Dreamcatcher 2017.
Oui, oui, dans le sens où. Par exemple, on a baissé la tonalité des morceaux d'un demi-ton pour que Chris soit sur un registre vocal pour qu'il soit plus à l'aise, qu'il force moins, et du coup qu'il puisse exprimer beaucoup plus avec aisance ses capacités vocales. Et donc, du coup, forcément, les morceaux de cette époque-là, aujourd'hui, vont sonner avec plus de puissance,
plus de lourdeur. Parce que je crois que j'ai réglé mes problèmes d'ego personnel et la volonté d'être. Totalement dans la performance et de pouvoir chanter jusque quelquefois même au-delà de mes capacités, ça, et en s'apercevant que finalement c'est pas joli, ça peut casser les oreilles des gens. Donc c'est vrai que les morceaux on les joue toujours, mais on leur a fait une nouvelle sauce, quoi. Et je dirais même que si on a l'occasion un jour de remixer cet album ou de réenregistrer certains titres de cet album avec le nouveau line-up et avec l'expérience qu'on a aujourd'hui, c'est avec plaisir qu'on le fera.
Question idiote, mais c'est un peu cliché, j'ai l'impression, de mon point de vue, c'est-à-dire de l'autre côté de la barrière par rapport à vos musiciens, vous avez fait le kiff de dire je vais dans ma Fnac ou dans mon Giver et je vois si je regarde sur mon album?
Oui.
C'est un peu idiot, hein, mais je me dis, c'est que oui, moi, si j'étais dans ce place, je le ferais.
En plus, on a pas mal géré la mise en place de l'album parce que le distributeur, c'était a priori pas vraiment son kiff. Lui, il n'était pas vraiment dans le...
Oedus,
et plus précisément Socadix, qui distribue tout et rien, quoi. Et donc, sur Paris, le distributeur, Socadix. Hein.
Non, mais eux, c'est vrai qu'ils traitent de nombreux gens.
Le mec de Socadix qui a fait un bouin, a pas fait son taf, donc la mise en place, c'est nous qui l'avons fait, mais avoir des bornes écoute et avoir ton disque en rayon, ou même quand je rentre un soir et je dis on est en répète et je dis au gars l'album il est en écoute à la Fnac Forum, il est dans les bacs à la Fnac Forum, ça te, oui c'est un c'est comme la première fois où t'entends tes morceaux à la radio, c'est même si on n'est pas sur RTL, mais oui c'est
d'accord. Justement, en parlant de tout ce qui est label, etc. Donc le premier, il sort sur Brennus. Celui-ci, il est en autoprod.
Ouais.
Alors, c'est un choix assumé ou imposé ?
C'est un choix assumé. Totalement assumé. On considère que, aujourd'hui, à notre niveau, ce type de distribution et ce type de label... Ça a été important peut-être à l'époque. Il y a 5 ans, ça avait encore de la valeur. Aujourd'hui, on pense qu'on peut, quasiment faire la même chose en autogestion. C'est-à-dire, on sait qu'avec des systèmes comme Bandcamp, on peut vendre sous format numérique, on peut vendre nos albums, on aura une boutique. On sait qu'une grosse partie des ventes qu'on a réalisées, on les a faites par correspondance, on les a faites à nos concerts, que le choix de passer par un petit label qui a peu de moyens pour faire de la promo, ça revient à faire en fait, c'est quasiment entre guillemets de la promotion dans le sens où l'album, il va nous rapporter que dalle, on va le vendre à prix coûtant. Ouais. Et quelque part, tout ça, c'est de l'autofinancement. Mais même quand on est sur un petit label, tu presses tes disques. Quelque part, on s'est dit.
L'intermédiaire vaut plus le coup.
L'intermédiaire vaut plus le coup. Les rayons métal se réduisent de plus en plus. Le support physique est de moins en moins et de moins en moins présent. On se dit que les gens qui voudront nous trouver, ils sauront nous trouver. Donc on avait aussi cet album a vraiment eu une gestation très longue. On avait envie que ça sorte. On n'avait pas envie encore de passer 6 mois, 1 an à aller pleurer à la porte des labels. Pour avoir peut-être un deal qui nous aurait pas convenu, ou des mecs qui nous auraient dit il est bien votre album, il faut le remixer, ou il faut réenregistrer certaines choses. On s'est dit c'est bon quoi, les mecs, maintenant faut y aller quoi, donc c'est un choix totalement assumé.
Et vous, en tant que artiste et à la fois en tant qu'utilisateur, en tant que consommateur de musique, cette évolution vers le do it yourself, le dématérialisé, le faut être sur Spotify, iTunes, etc. Et finalement l'intermédiaire, si on s'appelle pas Guns N' Roses, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Vous pensez que c'est une évolution positive ou négative ?
Positive au sens où en fait on arrive sur un côté technique où la musique devient accessible en termes de production pour un coût dérisoire. Et maintenant faire un studio, ça revient quasiment ça revient pas cher, vraiment.
C'est un peu un leurre parce que bon là. Effectivement, c'est à la portée de tout le monde, mais après, il faut savoir s'en servir, et c'est surtout un boulot, c'est un énorme travail.
Le risque, c'est qu'il y a tellement de sorties qu'on
se noyer dans la masse. C'est ça, exactement. Ouais. Après, je trouve qu'au niveau de la qualité, il y a du bon et du mauvais. Dans le sens où il y a du bon, c'est que la technique maintenant permet de faire simplement et à un faible coût un bon son de base. Ça devient presque de plus en plus difficile de faire un mauvais son, d'une certaine manière. Donc ça, c'est la partie intéressante. Mais oui, comme tu dis, après le problème, c'est de noyer dans la masse.
Après, j'ai l'innocence de croire qu'on a cette chance d'être sur un public métal qui est encore attaché au support physique. Certes, peut-être pas dans la jeune génération, mais je crois qu'il y a encore cet aspect collector et aussi l'aspect un peu respect de l'artiste, soutiens ta scène, achète la bolle d'un mec parce que tu sais que c'est ça qui va te faire bouffer, que ça va lui permettre d'en faire peut-être un autre, qui va lui permettre de faire des concerts.
Vous êtes encore à l'étape de passer en tous des maths et plus faire un pressage?
Bah non, parce qu'on est moi le premier.
Il n'y a pas d'intérêt, parce qu'il y a toujours un plaisir comme ça quand même.
Ouais,
physique. Ça, c'est le fan de métal quand même reste infidèle là-dessus.
Moi, je t'avoue, si les prix n'étaient pas démentiels, qu'il ne fallait pas sortir des quantités énormes, il y aurait eu un pressage vinyle.
Ben, je comprends. Ouais,
ça t'a sans doute pas échappé. Le format est un format 45 minutes qui tient exactement sur deux faces d'un vinyle ou même sur une cassette de 90 minutes.
Et il n'y a pas moyen d'avoir des deals accessibles pour un groupe moyen en vinyle. C'est tout de suite, il faut sortir des milliers d'exemplaires ou...
Non, on peut, mais est-ce la question, c'est ça coûte cher parce que ça demande un mastering différent, d'accord, que celui de l'album.
Ah, je sais pas ça.
Et ensuite, non, le minimum qu'il faudrait passer, c'est une centaine. Et très franchement, on se dit les choses telles qu'elles sont, on est honnête. Je ne suis pas certain d'avoir le potentiel de vendre sans album vinyle pour Dreamcatcher et dans le même temps de vendre également suffisamment de support CD pour pouvoir atteindre au minimum notre seuil de rentabilité. Voilà. Et bien sûr, c'est ce support vinyle avec en plus. Moi qui suis un gros collectionneur de vinyles, ça m'aurait fait kiffer. C'est juste que c'est pour l'instant, c'est inaccessible.
Il y a encore souvent quand on pousse le vice et qu'on est amateur de ce objet-là, on aime le picture disc, etc.
Oui.
Donc, on parle encore sur des coups. Si on revient sur ce nouvel album, qu'est-ce que vous pouvez nous dire des sessions d'enregistrement? Donc je crois comprendre que vous gérez ça à vous en interne.
Tout à fait.
Et surtout l'élément, même s'il y a eu 6 ou 7 ans d'écart, Est-ce que la session d'enregistrement s'est passée de façon très différente ou fondamentalement différente de la première?
Ouais.
Oui,
je pense que quand on a enregistré le précédent album, on était quand même assez inexpérimenté. Que ça soit sur le l'enregistrement du chant, que sur l'enregistrement des guitares, de ce fait, la matière qu'on a donnée ensuite à mixer au type qui s'occupait du mixage n'était pas géniale, donc il a essayé de rattraper des erreurs. Je pense qu'on a beaucoup appris. Je pense que, comme le dit Geoff, en plus les techniques et le matériel a évolué en 5 ans.
Même au niveau de l'enregistrement, enfin moi je ne parle qu'au niveau des guitares, parce que je suis chargé personnellement. Le travail a été vraiment différent. On a eu un vrai retour d'expérience par rapport au premier album. Je sais qu'on avait fait plein d'erreurs de technique, d'interprétation, de plein de choses différentes que l'ingé son a heureusement bien rattrapé. Et là aujourd'hui, on a pu fournir une matière qui était bien plus qualitative à l'ingé son pour qu'il justement il arrive à en extraire un son bien plus intéressant.
Les basses, elles n'ont pas été enregistrées en studio, mais ont été enregistrées dans le studio du bassiste, mais qui est un vrai studio d'enregistrement professionnel. Le chant, on a fait des tentatives pour effectivement l'enregistrer nous-mêmes, et en fait, pour te dire la vérité, l'album, il a pris aussi autant de temps à être réalisé, c'est qu'on a fait un premier enregistrement, et on n'en était pas satisfait, tant au niveau des guitares qu'au niveau des tentatives malheureuses qu'on avait au niveau du chant. On a tenté plein de choses, on a tenté de faire grôler, on a tenté de doubler des voix, et finalement, on est retourné, au moins pour cette partie, dans un studio traditionnel. Mais la grosse différence, outre cette partie enregistrement, c'est le mixage et le mastering. On avait dans l'ambition, à un moment donné, on s'est dit, on peut peut-être même le faire nous-mêmes. Et puis on s'est aperçu quand même que non, c'était pas notre métier. Et là, on a eu la chance, en fait, d'être conseillé par Vincent, notre bassiste, qui avait déjà travaillé avec lui, avec Warm Food, travaillé avec Axel. Du Walnut Groove Studio.
C'est un studio qui est à Amiens ?
Oui. Okay. Et qui a fait ADX, Trashback, Hurlement.
Oui, ils ont déjà une jolie tableau de chasse.
Et ils sont spécialisés là-dedans. Et ce qui s'est passé, c'est que ce Axel, en plus, a une vraie culture musicale, une vraie ouverture d'esprit. Et il a compris. Il a compris ce qu'on voulait faire. Et ça a matché assez rapidement. Quand vous vous êtes vu, vous aviez l'impression de parler le même langage.
C'est ça, je pense que moi, après le premier opus, finalement, j'ai été resté un petit peu sur ma faim, sur la qualité de la production et sur ce que j'avais fourni, moi, l'ingé son. Et du coup, je m'étais beaucoup formé, justement, sur la technique de Home Studio. Et ce qui m'a beaucoup aidé, en fait, à pouvoir fournir de la bonne matière à notre ami OneNote. Et du coup, quand on a voulu définir le son et voir exactement comment on voulait agencer les choses, ça s'est passé de manière très fluide et très naturelle. Justement, on a une collaboration qui était très fructueuse à ce niveau-là. C'était très sympa.
Est-ce que vous vous souvenez du premier titre qui a été composé? Et est-ce que vous pensez que d'une façon ou d'une autre, ce premier titre a coloré le reste de l'album?
C'est assez rigolo, mais je crois que le premier titre, c'est Noël Van Noël.
Et il n'a pas du tout coloré là-dessus, parce que finalement, on est passé vraiment à contre-courant de ce morceau qui est un peu l'alien de cet album.
C'était l'alien, ouais, c'est un morceau. Mais en fait, c'est assez rigolo parce que.
Il a défini de bonnes bases, en fait.
Voilà, et puis, mais quelque part, on a voulu apporter une certaine diversité à cet album. Et je pense que le deuxième morceau qui a été composé, à moins que je me trompe, je crois que c'est Blood on the Snow. Ouais. Et c'est lui qui a vraiment amené les bases.
Est-ce que tout ce que vous avez composé est sur le disque ou vous avez fait un tri très strict?
On a encore des idées, on avait de la matière pour faire un nouveau morceau. Mais en fait, vu qu'on a pris beaucoup de temps justement à sortir, on a vraiment voulu mettre tout ce qu'on avait de considéré qualitatif dans ce CD. Donc on a pris vraiment le temps de vraiment tout réagencer pour que ce soit vraiment la quintessence de ce qu'on avait sous la main.
Et dans ce qui reste, c'est poubelle ou ça pourrait servir de base à la suite?
En fait, ça s'y prêtait pas dans le format actuel. C'est-à-dire qu'on avait encore des riffs sous la main qui font très bons morceaux, mais qui s'adaptaient, qui ne rentraient pas dans ce qu'on avait.
Il y a ça, et puis il y a aussi un moment qui dit c'est bon, quoi, ça fait 5 ans qu'on est en train de travailler là-dessus, c'est stop, faut y aller, quoi. On va pas repasser encore 2-3 mois peut-être à retravailler des nouvelles idées pour ajouter un neuvième morceau qui en plus comme les Lizov cadrapte peut-être pas dans l'esprit. Donc c'est pas poubelle, voilà.
Donc tu disais l'aspect visuel c'est important, donc c'est un objet qui était personnel et qui était attaché. A priori, donc vous avez travaillé avec une photographe, Chloé Bazogarel.
Oui.
Voilà.
Qui incidemment porte le même nom que toi.
Parce que le premier album c'était aussi une photo.
Oui.
Ça vous semble important de travailler sur de la photo, c'est-à-dire sur du réel, plus que sur du dessin? Et Dieu sait que les groupes auxquels vous faites référence, il y a beaucoup du dessin. Ou c'est juste, simplement, voilà, les deux images vous ont plu à l'époque où c'est sorti? Ou est-ce qu'il y a une volonté intrinsèque derrière?
C'est de la photo, mais c'est déjà presque du dessin. On est entre les deux.
Il y a un travail derrière,
voilà.
Un travail graphique dessus.
Voilà. C'est... je dirais qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui nous convient, on est satisfait des idées que, enfin, de la manière dont Chloé transforme, enfin, réussit à exprimer nos idées. On s'interdit pas un dessin, mais c'est vrai que là, sur ce cas particulier, et notamment pour le titre de l'album, on est dans quelque chose de totalement réel. On rigole pas là, c'est Blood on the Snow, derrière c'est le massacre de vraies personnes et c'est pour ça que aussi la pochette, on reste quand même dans le suggéré. On met l'église au milieu du village, on dit on s'appelle Dreamcatcher, on met un Dreamcatcher, mais on respecte quand même les gens qui sont morts sur ce champ qui n'était pas un champ de bataille mais un champ de massacre et donc on aime quand même montrer que c'est réel, mais la photo est retouchée, mais c'est vrai que tu as raison, mais Il y a qu'un seul Derek Reeve, tu vois.
Ah ben non, mais j'espère.
Et puis on n'a pas, et puis on a pas de mascotte. Il faut la repenser.
Je vais essayer, par contre.
Oui.
Merci. Donc vous avez tourné avec des artistes quand même là aussi qui ont fait leur empreinte sur la scène. Diano, Blaise Bailey, Freedom Cole, dans un genre un peu plus mélodique. Finalement, au contact de ces artistes-là, est-ce que vous avez appris pour un professionnalisme sur
notamment, tu apprends l'humilité. Et tu apprends... et puis tu te dis que, je pense notamment à des mecs comme Diano et Bailey, qui à un moment donné ont connu le sommet et qui ensuite sont retombés à jouer dans des toutes petites salles. Diano beaucoup par sa faute parce que il a pas eu une hygiène de vie voilà, et puis en plus il a quand même un peu un caractère de merde et il est un peu ingérable, mais quand tu vois un mec comme Bailey qui est un peu dans la même démarche que nous, à savoir qu'il est aujourd'hui en totale autogestion, il s'autoproduit, il a son propre studio, il sort les disques sur son propre label parce qu'il sait pas, effectivement il a un deal de distribution, quand je vois ce mec qui à son âge continue à parcourir l'Europe dans un van, ça me remet à la place. Mais la plupart de ces gens tous les groupes comme Chariot, comme Club of New Salem sont des gens toujours super accessibles. J'étais fan d'un groupe qui s'appelle le Titan anglais, Titan, qui est en fait une émanation de... En fait, c'est une partie du line-up de Angel Witch qui est parti former ça. Ils se sont reformés ensuite. Le jour de la veille de mon anniversaire, ils m'ont donné l'opportunité de monter sur scène avec eux et de chanter Blind Man's and Fool. Ces gens, il y a une vraie...
Camarade, oui.
Ouais, il y a quelque chose quand même. Il y avait même un objectif à un moment donné qui s'est pas fait parce qu'on n'avait pas le temps et que logistiquement c'était un petit peu compliqué. J'avais même envie à un moment donné de créer un album qui parlait de la camaraderie et de faire venir tout le monde.
C'est dangereux.
Mais ça t'apprend l'humilité, ça t'apprend l'exactitude, mais ça t'apprend aussi comment dirais-je, c'est pas la peine de trop en faire. Parce que tous ces gens-là, en fait, c'est ça que... Tous les gens que j'ai contactés, ils sont dans le vrai. Ils sont là, et ils n'ont pas besoin d'en faire des tonnes. Même ce pauvre Paul Diano, qui aujourd'hui en est presque arrivé, qui ne pouvait plus marcher, qui tient sur une canne, quand il est dans ses bons jours, parce qu'il y a également des mauvais jours, et que la voix est là, il a pas besoin d'en faire des tonnes. Et quand tu commences ta carrière, tu penses qu'il faut gesticuler comme Bruce Dickinson et cavaler partout, sauf que toi t'es sur une scène qui fait 3 mètres sur 2 et qu'il faut... Ça t'apprend aussi à rester à ta place.
D'accord. Finalement, qu'est-ce qui se présente pour vous là, dans les semaines ou les mois à venir? Donc, très important, donc, il y a la release party le 21 octobre.
Oui.
Ici, donc, où on se parle au Café Gouldéal.
Voilà.
Ensuite, vous avez d'autres perspectives derrière?
Alors, on ne les a pas annoncées parce que pour nous, on veut que ce concert, ça soit un peu comme une sorte de fête, parce qu'on va jouer beaucoup de morceaux du nouvel album. On a envie que tous les gens qui nous suivent depuis un moment et qui attendent cet album depuis un moment, il y en a encore... Même si on a été absent des radars pendant un moment, on veut qu'il soit là et qu'il partage ça avec nous. Mais donc il y a deux dates qui arrivent derrière. Il y a une date au Candy Shop avec un groupe anglais qui commence un peu à faire parler de lui, qui est très, très inspiré par la New Wave, British Heavy Metal, un groupe qui s'appelle Seven Sisters.
D'accord.
On joue avec eux et Silver Stage, un groupe parisien qui est fait du hard rock, c'est bien sympa. On a une autre date au Bar d'Atomic dans le 78. D'accord. Avec Mentalist. Et en fait, c'est difficile, mais on ne peut pas être à la fois au four et au moulin. Là, en ce moment, on est à peine sorti de l'enregistrement de l'album, gérer tous les aspects qu'il y a, puisque comme je te le dis, on est en totale autogestion, donc il faut penser qu'il va falloir sortir, faire un nouveau backdrop, qu'il va falloir faire des nouveaux t-shirts, qu'il va falloir faire des badges, qu'il va falloir... Et puis, bon, il faut gérer... il faut gérer toute cette partie promo. Donc là, on commence à prendre des contacts et pour sortir de nos bases et en 2018 jouer en province. On commence également aussi à avoir quelques contacts à l'étranger.
Le contact, c'est Facebook ou les sites internet?
Oui.
C'est là où toute l'info.
Oui. Aujourd'hui, c'est Facebook, oui.
Ok, parfait.
Merci beaucoup à toi.
Merci.
C'était cool.